I'd like to have a democracy.
Suite et fin de notre série d'interviews des candidats aux élections municipales 2020 à Arras, en collaboration avec La Voix du Nord. Hubert Ferré est là avec nous. Salut Hubert.
Salut Nico.
Hubert Ferré, journaliste et rédacteur en chef adjoint à La Voix du Nord Arras. Notre invité aujourd'hui, Thierry Ocre pour la liste Une Nouvelle Énergie pour Arras. Bonjour à vous.
Bonjour Nicolas, bonjour Hubert, et bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Thierry Ocre, secrétaire de la section arageoise du Parti Socialiste, vous menez une liste de rassemblement d'un certain nombre de partis de gauche, Mouvement des Citoyens, Parti Communiste, Parti Radical de Gauche, Nouvelle Donne, donc beaucoup de formations politiques, mais après une succession de déconfitures pour la gauche, pour le PS, et après une recomposition du paysage politique français depuis 2017, est-ce que toutes ces étiquettes, ça correspond encore à quelque chose, à un mouvement dans la société? Est-ce qu'il y a un espace politique?
Il y a un espace politique. L'espace politique, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, face aux défis sociaux, sanitaires, environnementaux et économiques qui nous attendent tous collectivement, on pense que la réponse à tous ces défis, c'est créer qu'un H, le H de humanisme. Et ma famille politique et puis nos partenaires historiques, on a souhaité aussi se recomposer autour de ces valeurs. Alors même si c'est vrai que le Parti Socialiste n'est pas en grande forme, moi je peux vous assurer qu'en revanche, je suis en très grande forme et je vais très bien, prêt à porter mes valeurs.
Est-ce qu'il y a des marcheurs sur votre liste ?
J'ai pas de marcheurs identifiés. En revanche, c'était une liste d'ouverture, on l'a voulu ouverte, sur la société civile, puisque je l'avais déclaré d'ores et déjà. Nous avons 35% de la liste issue de la société civile, et puis nous avons la chance d'accueillir notamment des militants du MoDem d'Arras. Et c'est une ouverture sur le centre, mais comme à l'époque, Guy Mollet faisait une ouverture aussi sur le centre.
Hubert ?
Ouais, s'il n'y a pas de marcheur, je note quand même la présence de Marc Desrameau. Frédéric Le Turc, vous avez fait quelques prises avec Karine Boissou, Jean-Pierre Ferry. Là, c'est on répond à l'envoyeur, on lui répond par en lui prenant quelqu'un qui faisait partie de sa liste en 2014.
Oui, tout à fait. C'est la réponse de l'un à l'autre.
C'est un marcheur.
Je sais pas. Il est trésorier du MoDem d'Arras. Donc voilà, c'est son choix de venir nous rejoindre. S'il nous a rejoint, c'est parce qu'il faut quand même, quand on vient du centre, venir rejoindre une liste. Ça veut dire que ça va au-delà des étiquettes politiques, et on se rejoint bien sur des valeurs humanistes, sur des valeurs de, finalement, d'amélioration du quotidien, on en parlera, et de préparation de l'avenir.
L'enjeu de ce scrutin, c'est de reconstruire une opposition à Arras, et l'enjeu pour les nombreuses listes à gauche, il y en a quand même quatre en lice, ces municipales à Arras, c'est d'être le leader de cette opposition. Comment vous voyez les choses, vous ?
Vous avez utilisé un terme, c'est reconstruire l'opposition, puisque force est de constater que depuis, donc on a été privé de deuxième tour depuis 2008, donc ça fait 12 ans qu'on n'a pas de deuxième tour à l'élection sur Arras. Depuis 2014, là aussi force est de constater que l'opposition s'est dissoute ou disloquée, je vous laisse choisir le bon terme, je pense qu'il y en a un peu des deux. C'est reconstruire finalement une alternative. Non pas une alternative à une opposition, une alternative à une majorité. C'est pas la même chose. Ensuite, la question de leader ou d'équipe gagnante, c'est de la recomposition. Voilà. Donc nous, on est là pour, on porte nos valeurs, on va chercher un deuxième tour pour gagner au deuxième tour, avec une alliance qui sera peut-être plus large, on le souhaite. Ce qu'on n'a pas réussi à faire au premier tour, peut-être que nous arriverons à la faire au deuxième tour, autour de valeurs, autour d'un projet, parce que c'est de ça dont on parle. C'est une comparaison de projet contre projet. C'est l'avenir de la ville et du territoire. Je trouve qu'on en parle peu, finalement, de ces projections. On parle peu du constat, du quotidien des gens, qui s'est fortement dégradé, et il faut le souligner, depuis un certain nombre d'années. Le quotidien, c'est la propreté, c'est l'état des infrastructures sportives, j'y reviendrai. C'est une baisse de population, inexorable, puisqu'on a quand même perdu 1761 habitants depuis 2008, voilà, alors qu'on n'a jamais autant construit Arras, par exemple. Vous voyez, c'était une ville des paradoxes. Donc à un moment donné, face à ces paradoxes, on a besoin de proposer une alternative, d'ailleurs de faire une analyse de ce qui se passe, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et il ne s'agit pas de tout envoyer à la poubelle, il s'agit de faire un constat factuel. Puis ensuite de proposer, et charge aux citoyennes et aux citoyens, eh ben, de choisir le projet dans lequel ils se voient, ils se projettent, en tout cas. Voilà.
Hubert ?
L'alliance, pour être crédible, elle pouvait pas, et pour avoir une chance de l'emporter et d'avoir un second tour, elle pouvait pas intervenir au premier tour. Ça a été, il y a eu des discussions, ça n'a pas pu aboutir.
À vrai dire, il faut se dire la vérité. L'histoire de 2014, je rappelle pour les auditeurs et les auditrices, ça veut dire qu'à un moment donné, en 2014, une tête de liste est choisie, une tête de liste Europe Écologie Les Verts, en la personne d'Hélène Flautre, et a été imposée par le Parti Socialiste et par la Direction Nationale. Et donc finalement, cette alliance de force, j'ai envie de dire, puisque c'était un mariage de force, n'a pas produit les effets escomptés, puisqu'on a réalisé... on va dire la gauche plus Europe Écologie Les Verts, on a réalisé 16%. Et donc, force est de constater que par le mariage forcé, on n'y était pas arrivé. Et donc, voilà, moi je respecte leur convictions, je respecte leurs projets. Il y a des choses qui peuvent nous rassembler, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour choisir, et puis ensuite il y a un temps pour éliminer. C'est le deuxième tour.
On va parler du programme et des propositions, mais avant, encore une question sur la politique. On parlait de la dissolution, de la dislocation de l'opposition à Arras. Il y a, selon vous, un affaiblissement du débat au niveau municipal, quelque chose que vous regrettez ?
Enfin, affaiblissement, je trouve que ce n'est pas le bon mot. Ce n'est pas le bon qualificatif. Il est quasiment inexistant. Aujourd'hui, la voie alternative, elle est portée par les collectifs. C'est-à-dire qu'on assiste finalement à une multiplication des collectifs pour le vélo, ici dans le quartier, pour le quartier Méolan-Saint-Géry, une multiplication du collectif, porteur de voix, finalement, de tout ce qui ne va pas au quotidien, ou de tout ce qui est amélioré, de tous les projets. Voilà. Donc, il y a une substitution, finalement, parce que depuis une quinzaine d'années, cet affaiblissement démocratique a laissé le champ, et tant mieux, pour le coup, un certain nombre de collectifs. Sauf qu'à un moment donné, des collectifs, il faut réussir à transformer. Et puis pour transformer, il doit y avoir normalement une opposition qui s'empare en fonction de ses valeurs, de tel ou tel sujet, en fonction des priorités du moment, et qui s'empare de ces sujets pour aller le porter et à la réalisation. Et pas seulement dans l'effet de paillettes, d'annonces qui se multiplient, ou de débats biaisés, puisque au-delà des collectifs, les collectifs, c'est souvent la réponse à quelque chose qui est prémâché. Parce qu'on les assiste. La plupart des projets sont annoncés comme nouveaux. On demande l'avis des citoyens. Et quel que soit l'avis des citoyens, on se retrouve sur la copie qui sort du cabinet du maire sortant ou des services. Voilà la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste, et c'est tant mieux, à cette multiplication des collectifs. C'est par l'affaiblissement, et c'est même la disparition de voix, parce que ce n'est pas qu'une opposition, de voix alternatives.
Il y a justement un collectif qui a mis un sujet important sur la table de ces municipales arrageoises, c'est celui du devenir de l'abbaye Saint-Va et de la perspective d'un partenariat public-privé pour occuper les 10 000 m² vierges de toute occupation à l'abbaye Saint-Va. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Bon, première chose, heureusement qu'il y avait un collectif pour alerter, parce qu'on a quand même passé sous silence cette histoire. Le Palais Saint-Va, c'est une histoire à 35 millions d'euros. 20 millions d'euros de toiture, puis ensuite 15 millions de raménagements du musée et de la médiathèque. Donc je trouve que 35 millions, on a une dette aujourd'hui autour de 42 à 44 millions, c'est quasiment à 10 millions près autant que la dette actuelle. Donc le fait qu'un collectif s'empare de ça, le mette sur la place publique, et qu'on en discute, parce qu'il y a eu deux présentations assez rapides, et puis sur le fond du dossier... Moi, j'attendais, parce que je n'imagine pas un investisseur privé venir dépenser des millions d'euros sans des retombées. Et donc, j'attends, mais comme tous les citoyens d'Arras, l'étude de faisabilité. Est-ce qu'il y a un marché pour un hôtel 5 étoiles à Arras ? C'est la première question auquel on doit répondre. Ensuite, partenariat public-privé, combien ça coûte, qu'est-ce que ça va modifier, puisque ça ne modifie pas que finalement l'aile centrale, j'en dire le bloc central de l'abbaye Saint-Va, ça modifie aussi les pénétrantes vers le musée, l'accès au musée. Il y a l'histoire du jardin de la Légion d'honneur à l'arrière, des parkings, c'est une très grosse difficulté à cette histoire de parking. Voilà, et on est parti dans un projet, un effet d'annonce. Et ce projet, j'ai envie de vous dire, on n'en entend plus parler. On n'entend plus parler de ce projet-là. Mais il y a un certain nombre de projets dans les cartons qu'on n'entend pas parler. Tout ce qui est investi sur la partie Val de Scarpe, après l'école, après la passerelle, après un éventuel déménagement du commissariat, c'est pour quoi faire ? Il faut que les auditeurs le sachent. C'est pour faire une fusion de communes avec Saint-Laurent et Saint-Nicolas. Encore un sujet qu'on n'évoque pas. Les citoyennes et les citoyens d'Arras ont le droit de savoir ce qui se passe dans les coulisses. Et aujourd'hui, on les amuse. Voilà. Je prends toujours à l'identique, au-delà du palais Saint-Va, tout ce qui relève de la gare et le raménagement de la gare. Là aussi, rapidement une concertation, grand coup de communication. Voilà, moi je prends l'engagement, dans le cas où la majorité qui me soutient, c'est de repasser en concertation. Mais une vraie concertation. Ça veut dire pas un projet prémâché, des réunions qu'on veut animer, en tout cas sous le boisseau, et puis à la fin, on décide à la place des habitantes et des habitants.
La perspective de fusion de communes, c'est vrai qu'on a déjà entendu parler de celle d'Arras, Saint-Nicolas, Saint-Laurent, c'est une possibilité. Vous n'êtes pas d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui peut vous intéresser dans un cadre global de nécessaire mutualisation ?
Si, ça peut être intéressant. Mais je crois qu'avant de fusionner les communes, il faut améliorer le quotidien dans les quartiers. C'est un prérequis. Et commencer à faire des fusions de communes alors que dans les quartiers, je pense les quartiers ouest, quartier Beaudimont, il n'y a plus rien qu'au Lucci pour les jeunes, il n'y a plus d'animation. Regardez le club de foot d'Arras Ouest, dans quel état est son terrain de football. Ils ont quelque chose comme de 40 mètres carrés pour réunir 170 licenciés. Donc il y a un certain nombre de choses au quotidien qu'on ne fait pas. Donc on n'améliore ni le quotidien, et en plus, on ne prépare pas l'avenir sérieusement. Voilà.
Alors une des propositions qui est faite dans le programme, hein, dans le grand dépliant, justement sur l'équité, l'égalité entre les quartiers, c'est 1 euro investi en centre-ville, 1 euro investi dans les quartiers.
Tout à fait. C'est un parti pris. C'était important pour nous d'envoyer le signal d'équité. Et ce signal, au lieu d'être un effet d'annonce, 1 euro, 1 euro, il faudra qu'il soit vérifié. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on a mis en place une commission citoyenne, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a une concentration, en tout cas une hyper-concentration, des budgets et des moyens sur les quelques kilomètres carrés du centre-ville. Arras, c'est 11 kilomètres carrés de surface. Il y a 60-70% d'investissements directs qui sont concentrés sur 3 kilomètres carrés. Et ça avait été noté déjà, hein, je crois que c'est le casino, où on est passé de 6 à 12 millions d'euros. Parce qu'on n'a pas su finalement gérer le budget du casino, on a dérapé de 6 millions. En 6 millions, on refait les vestiaires, des clubs d'athlètes. Avec 6 millions, on refait les vestiaires, des clubs de foot, du club de rugby, dont le vestiaire est Élie Desbins, là-bas, dans les sous-sols, qui est dans un état déplorable. On refait le stade de l'hippodrome, on refait des vestiaires pour les gamins d'Arras Ouest. Voilà ce qu'on fait avec 6 millions. Donc 1 euro investi dans le centre-ville égale 1 euro investi dans les quartiers. Et on y tient à cœur. Vraiment, ça nous tient à cœur cette affaire.
Donc, le sport, c'est important dans vos propositions. Vous parliez d'une commission citoyenne indépendante. C'est quoi ? Alors, c'est des gens qu'on choisit au hasard comme ça et que l'on charge de contrôler les comptes, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, on ne pouvait pas mettre, parce que la difficulté d'un programme, c'est qu'on ne peut pas écrire des pages et des pages. Ce que l'on voulait au départ, c'était signer la charte Anticor. D'accord ? Donc Anticor, c'est un organisme qui vérifie le comportement des élus, des marchés publics et la transparence finalement de la vie publique. On n'a pas pu le signer parce que cette année, ce n'était pas disponible. Donc on a essayé de décliner finalement quelques points de la charte Anticor. La première qui nous tenait à cœur, c'était la réduction des indemnités d'élus. Puisqu'on en a dit, à l'heure où on traverse une crise de confiance et de sens et d'espoir à travers la politique, c'était de jouer l'exemplarité. Et ce n'était pas une annonce populiste. C'est dit de dire, voilà, on réduit 30% de nos indemnités sur l'ensemble du mandat entre les maires et adjoints aux maires. Ça fait une somme un peu plus de 400 000 euros à destination des associations. On a dit aussi qu'on allait, et on ne l'a pas écrit, laisser la commission d'appel d'offres et des finances à l'opposition. Ça se fait à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas localement. Et donc cette commission de 17, elle est bien tirée au sort, renouvelée tous les 3 ans, et elle a pour vocation à avoir un avis publié, public, de la gestion, la bonne gestion. Il y a parfois des mères de famille qui gèrent mieux leur budget que le budget qui est donné parfois à des politiques. Et donc faisons confiance aux mères de famille et aux bons pères de famille pour avoir un avis critique sur ce qu'on fait du denier public.
Hubert, vas-y.
Oui, alors sur la gestion, pour rebondir sur ce que vous dites sur la gestion, les Arrajois est vu de l'extérieur. Les gens aussi, Frédéric Le Turc se targue souvent d'avoir des échos en ce sens, que Arras a changé, finalement. A beaucoup changé, a beaucoup évolué, est devenu une belle vitrine, a une belle image, a même une image de marque. Vous pensez que c'est quoi ? C'est que de la façade, c'est... On a ripolliné les murs, mais on n'a pas fait grand-chose à l'intérieur.
Ça correspond aux 3 km de centre-ville dont je parlais. Et encore 3 km de centre-ville, on pourrait faire un zoom quartier par quartier. Moi, je peux vous dire que la cour de Verdun, à l'heure où on se parle, mais elle sera nettoyée. C'est-à-dire, vous m'avez dit que le reportage allait passer mercredi prochain. Je peux vous dire que le mardi, elle va être nettoyée. Donc, avis à la population, ça y est, la mairie a décidé de nettoyer notre ville. Et je trouve ça formidable. Il devrait y avoir des élections 2 fois par an. Au moins, on serait sûr d'avoir une propriété exemplaire à Arras. Moi, je veux bien, image de marque, le seuil de pauvreté, le nombre d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, 24,8%. Un Arrajois sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est factuel. C'est l'observatoire de la pauvreté. Arras fait partie, sur les 421 villes de plus de 20 000 habitants, est 81e sur le seuil de pauvreté. Les écoles, pas rénovées. Je ne vais pas vous faire à vos auditeurs la longue liste des écoles non rénovées jusqu'à aujourd'hui. Le sport, les infrastructures sportives, j'en ai parlé assez longuement. La propreté, on a perdu des habitants. L'investissement concentré sur le centre-ville. Donc oui, on parle beaucoup d'Arras. Oui, on est fiers le matin de regarder BFM TV et de voir le beffroi d'Arras. Moi, je voudrais bien savoir combien ça coûte à la ville, parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait payer pour voir le beffroi à la télévision. Il faudra peut-être vérifier cela. Donc oui, on est fiers de tout cela, mais moi, je serais plus fier, en marchant dans les quartiers, de voir des animations, de voir des enfants heureux, d'avoir des animations, des terrains de football corrects, des vestiaires corrects pour pratiquer tel ou tel sport. Voilà. Donc, encore une fois, une ville des paradoxes. On parle beaucoup d'Arras, mais quand on y vit, c'est un peu plus difficile parfois.
Thierry Ocre, parlons un peu des propositions écolo de votre liste Une nouvelle énergie pour Arras. Alors j'ai noté jardins familiaux, interdiction des pesticides, reboisement de 10 hectares, ça fait beaucoup, et création d'une zone maraîchère de 30 hectares en périphérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous voulez trouver les 30 hectares ?
Alors, on va y aller dans l'ordre pour ce qui est des 10 hectares de reboisement. C'est pas beaucoup 10 hectares de reboisement. C'est raisonnable, c'est-à-dire le but, c'est pas d'avoir des forêts, c'est d'avoir des îlots de fricheurs, de biodiversité, des puits à carbone. Et l'efficacité de ces puits à carbone, c'est quand on a des surfaces qui sont raisonnables. Mais moi, je prends plusieurs friches. Hein. Vous savez, les 10 hectares, on les a. Hein. Friche d'hydro, friche aéro, la petite vitesse, et vous avez déjà au moins 12 hectares à cet endroit-là. Vous voyez ? Donc, c'est un choix, après. Donc, 10 hectares, c'est possible. Ça fait en fonction, vous savez, un arbre, quand on le plante, il faut en creux des arbres, j'ai envie de dire efficace, pour que ça soit un puits à carbone. Il faut 10 à 20 mètres carrés. Donc 5000 arbres en ville, à d'ici 6 ans, je trouve ça plutôt raisonnable. Voilà.
La zone maraîchère, ouais.
Zone maraîchère, c'est un projet, ce que l'on a proposé, c'est un projet alimentaire de territoire. Projet alimentaire de territoire, c'est quelque chose de grande envergure, qui part du plein champ, avec des zones d'exclusion phyto, qui revient en abord de ville, en zone de maraîchage. Voilà, où on installe, ça se fait à Wavrin, ça se fait à Stain, un certain nombre de communes. Et puis j'ai envie de dire, avec du maraîchage en proximité, du maraîchage bio, on retrouve finalement l'origine d'Arras. Moi, je vous invite à aller dans la salle d'honneur du Beffroi, au-dessus des deux portes. Vous avez là un marché, vous voyez au fond les remparts d'Arras et vous avez un certain nombre de jardins. Voilà, c'est retrouver finalement une filière bio du plein champ à la zone de maraîchage, et même plus loin, puisque je vais jusqu'à proposer, avec mes colistiers, le passage de Cité Nature en ferme urbaine. Ferme urbaine école.
Et non plus centre scientifique.
C'est pas incompatible.
C'est pas incompatible.
C'est pas incompatible. quand je parle d'école, de ferme urbaine école, c'est une ferme qui produit, mais qui aussi forme, et sur lesquelles on, finalement, on essaie de relever les défis de demain, c'est-à-dire nourrir de mieux en mieux et de plus en plus une planète qui va en avoir fortement besoin. Juste une chose, parce qu'on parle toujours de vert, et moi je parle toujours de transition verte et bleue, puisqu'il y a deux autres facteurs extrêmement importants, au-delà du bio, au-delà du... c'est l'air, la respiration, donc le reboisement, mais aussi zone à faible émission, et puis l'eau. Et nous avons fait un certain nombre de propositions.
Donc l'eau, votre proposition, c'est une étude du retour en régie communautaire ou publique.
C'est une étude.
Étude, bon, c'est pas très engageant, ça veut dire on regarde, mais c'est pas, on va le faire.
Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, un certain nombre de forages ont été faits en périphérie des races pour retrouver finalement des nappes. Et force est de constater que c'est difficile de trouver des nappes propres, des nappes à faible taux de nitrate. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse à procéder à autre chose que du traitement classique de l'eau, à aller peut-être plus loin, en zone d'exclusion éventuellement, mais aussi en traitement de l'eau. Et donc, à un moment donné, l'outil, la raréfaction de cette ressource, dans les années à venir, fait que le prix risque d'augmenter quasiment naturellement. Et je pense qu'il y a besoin que les pouvoirs publics regardent le sujet, dans tous les cas, de la qualité, de l'arrivage, de la qualité. Il faut savoir que les tuyaux et les zones de stations d'épuration appartiennent déjà à la communauté urbaine. Ce sont déjà des infrastructures publiques mises en délégation de services publics.
Sur la qualité de l'air, un levier aussi, c'est d'agir sur le transport en commun. La gratuité des transports en commun, c'est une proposition de longue date du Parti communiste, qui est un de vos partenaires. Vous en êtes où sur ce thème-là, de la gratuité des transports en commun ?
C'était mon petit clin d'œil, hein, c'était de proposer la citadine gratuite dans les quartiers. Voilà. On assiste à deux choses. Je vous invite et j'invite vos auditeurs et vos auditrices à regarder un peu les bus en fonction des heures de la journée et de leur remplissage. C'est-à-dire qu'on a des grosses dans les zones de balancier le matin où on déplace un certain nombre de populations d'un point A à un point B. Effectivement, on a des grands bus remplis de nos enfants à l'intérieur. En revanche, au fur et à mesure de la journée, on voit que ces bus se vident. Ça veut dire que là, on propose, dans cette période-là, cette citadine gratuite avec des petites quantités, mais des fortes fréquences. Voilà, c'est ça la réponse. Et la citadine étant gratuite, on a répondu à la
question.
Donc
moins de bus et plus de citadine alors.
Moins de bus et plus de citadine. D'ailleurs, on a même proposé pour les personnes âgées des navettes particulières pour pouvoir accéder soit à des cabinets de soins, puisqu'on a rencontré dans le porte-à-porte beaucoup de personnes âgées qui avaient du mal à se déplacer ou qui avaient peur finalement de prendre le bus. Donc on propose aussi des citadines service, j'ai envie de dire, qui finalement, à des heures de la journée, à faible fréquentation, fin de matinée ou en début d'après-midi, ont la capacité de partir de l'hôpital, d'aller au cimetière, d'aller au cabinet médical avec des rotations comme celle-là.
Bien, dernière question.
Vous évoquez dans votre programme un plan de circulation globale qui serait revu dans les 12 mois suivant l'élection. Vous avez, vous, la solution pour le rond-point de chèque ?
Vous avez vu à quoi je suis arrivé. Je suis arrivé avec une trottinette électrique, qui est encore un autre moyen de transport. Parce que tout le monde parle du vélo, on ne parle pas des patinettes, on ne parle pas des trottinettes ni des skateboards, etc. Parce que je fréquente aussi une ville beaucoup où tous ces engins de circulation se meuvent en même temps. Il faut revoir, c'est-à-dire on ne peut pas, à partir du schéma de trafic aujourd'hui, continuer à accumuler les couches. Et puis un jour, on réserve pour le vélo, puis les trottinettes, puis voilà, et puis les piétons, etc., etc. Je pense qu'il faut revoir l'essence de circulation, il faut revoir la fluidité. Hein. Il y a un certain nombre de solutions aujourd'hui qui fonctionnent hein, sur du feu tricolore intelligent, qui en fonction des horaires de la journée s'adaptent et ne sont pas finalement avec des périodes de cadencement plus ou moins rapides et qui permettent aussi de désengorger. Donc je crois qu'il y a un travail, il faut tout reprendre là pour le coup à zéro. Je pense qu'en partant de l'existant, on ne trouvera pas de solution, puisque aujourd'hui, c'est une accumulation de paradoxes, où on se retrouve sur une piste cyclable, en tête-à-tête avec une voiture, puis des portières qui s'ouvrent sur le côté. Voilà, donc à un moment donné, il faut tout remettre à plat. La seule chose, c'est que ça ne peut pas se faire dans la précipitation, et ça doit se faire en concertation avec tout le monde. Parce que là, pour le coup, c'est pas que le problème d'un collectif, c'est le problème de tous les habitants et de tous les habitants avec les concessions que l'on est prêt à faire. Et pas par imposition. Quand on parle de transition, finalement, du quotidien, transition environnementale, c'est bien le mot transition. Ça prend du temps, ça demande à être organisé, ça demande à être concerté et ça demande de prendre des avis différents. Voilà.
Thierry Ocre, tête de liste pour Une Nouvelle Énergie pour Arras, liste soutenue par le Parti Socialiste, le Mouvement des Citoyens, le Parti Communiste, le Parti Radical de Gauche et Nouvelle Donne. Il était au micro de Radio PFM et d'Hubert Ferré, journaliste et chef de rédaction adjoint à La Voix du Nord, Arras. Interview enregistrée vendredi dernier. Retrouvez un compte-rendu écrit dans les pages de La Voix du Nord d'aujourd'hui. Retrouvez aussi toutes les interviews des candidats aux municipales à Arras sur notre site radio-pfm.com. Demain et vendredi, dans ce magazine Info 30, on s'intéressera à Hachicourt où 4 listes sont en lice et ça risque d'y être serré. Et puis ce dimanche, c'est le premier tour des élections municipales et Radio PFM vous proposera une émission spéciale en direct. Résultats locaux et régionaux, réactions à chaud, analyses et commentaires. Vous pouvez écouter ça sur le 99.9 de la bonne vieille bande FM ou en ligne radio-pfm.com si vous êtes équipé d'un poste numérique sur DAB+. Et ça se passe ce dimanche 15 mars, prise d'antenne à partir de 19h30.